Forum Opéra. Selim Mazari. Le cheveu en quatre.
Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du cheveu en quatre. Aujourd'hui consacré au soleil, à la vitamine D, à la fin des vacances. C'est la chanson napolitaine aujourd'hui qui sera le sujet principal de cette émission. J'ai la chance d'être entouré de la merveilleuse Marie Perbos tout d'abord.
Ville flatteur.
Qui nous partagera encore sa bonne humeur puisqu'on s'est vu il y a un numéro à peine. Et son expertise évidemment. Et puis le membre fondateur, membre principal de notre site Forum Opéra, Sylvain Faure. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité.
Alors aujourd'hui justement, la chanson napolitaine, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui nous allons écouter donc Torna a Sorrento. Est-ce que c'est une chanson qui fait partie du répertoire folklorique? Est-ce que c'est plus récent? Quelques mots peut-être, Sylvain?
Mais oui, en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent de la chanson napolitaine au sens où il y aurait une chanson folklorique napolitaine qu'en fait on chante pas énormément, alors que la chanson napolitaine qu'on chante beaucoup dans les concerts, etc., et même en fait à Naples, eh bien, c'est une chanson beaucoup plus récente. En fait, ce sont des chansons, littéralement, du début du XXe siècle, essentiellement, composées par des compositeurs tout à fait... des compositeurs de chansons. Et donc, en fait, c'est un répertoire assez récent. Et ce qui est intéressant, c'est que, par ailleurs, c'est souvent un répertoire. Évidemment, il y a beaucoup de sentimentalité, il y a beaucoup de rengaine, mais c'est un répertoire très local et quasiment déjà touristique. Puisqu'en fait, souvent, certaines de ces chansons, enfin beaucoup de ces chansons, parlent de réalités locales, de choses qui se sont passées. Funiculi, Funicula, c'est pour l'inauguration du funiculaire. Torna a Sorrento, on y reviendra peut-être. C'est un contexte à la fois politique et puis un peu économique même. Et donc, on est dans quelque chose qui nous est en fait très proche sur le plan culturel et musical.
Oui, alors c'est d'ailleurs directement le cas donc pour Torna a Sorrento. C'est une affaire de famille composée par Ernesto de Curtis. Quelques mots, Sylvain, encore sur cette chanson directement?
Eh bien, en fait, tout part d'un lieu qui est évidemment Sorrento ou Sorrente en français. Mais dans ce lieu, il y a un hôtel que vous connaissez bien parce que je sais que vous y passez toutes vos vacances. C'est l'hôtel Tramontano. Et cet hôtel est un des premiers hôtels, un hôtel absolument magnifique à pic sur la baie de Naples, évidemment, de l'autre côté, par rapport à Naples. Et c'est là que Ernesto de Curtis avait un peu ses habitudes. Il était très ami avec le propriétaire et il se dit qu'il était un peu amoureux de sa fille, etc., etc. Et donc, cette chanson serait un peu née à la fois de cette complicité avec le propriétaire, peut-être un peu de la connivence avec sa fille, et puis d'un prétexte politique qui est qu'un politicien très important, en fait, de la rénovation et de la réinvention de l'Italie, qui s'appelle Zanardelli, est venu en vacances là, et dans cet très bel hôtel, mais en fait on lui a fait valoir que c'était bien d'avoir un bel hôtel, mais qu'il n'y avait pas de chemin de fer, qu'il n'y avait pas de poste, qu'il n'y avait pas d'infrastructure, et que donc il fallait s'occuper de cette Italie du Mezzogiorno, qui souffrait en réalité de beaucoup de retards économiques et infrastructurels. Et donc cette chanson qui dit « Reviens à Sorrente » ne s'adresse pas à une bien-aimée qui aurait quitté le chanteur ou l'auteur de la chanson, mais à un politicien appelé à de hautes fonctions, puisqu'il est devenu président du conseil italien, et donc pour lui rappeler qu'il avait pris des engagements lors de son séjour dans ce très bel hôtel. Je vous invite encore une fois à aller. Moi, je ne suis jamais allé, mais j'ai vu des photos, c'est très beau. Et donc, c'est assez décevant d'une certaine façon, parce qu'on est quelque chose d'extraordinairement prosaïque. Et puis, évidemment, comme De Curtis n'était pas la moitié d'un imbécile, il sait très bien que cette pièce de circonstance était appelée à devenir une chanson qui court les rues de Naples et peut-être même de plus loin et du monde aujourd'hui. Et donc, évidemment, aujourd'hui, c'est le sens sentimental de la séparation et de l'appel à un être aimé qui s'est éloigné, qui prévaut sur toutes ces considérations historiques.
Est-ce que l'histoire nous a informé que Giuseppe Zanardelli a résisté ou a cédé?
Eh bien, en fait, le Mezzogiorno est toujours resté, comme vous le savez, le parent pauvre de tout ça. Mais enfin, néanmoins, progressivement, avec le temps, il y a eu une gare, il y a un bureau de poste. Et maintenant, c'est évidemment une destination. Vous savez que c'est une destination touristique, évidemment, très importante, énormément, en fait. C'est une destination touristique qui attire essentiellement les Anglais. En réalité, c'est les Anglais qui ont fait de Sorrente ce qu'elle est. Et je pense que le fait que cette chanson ait connu une très, très grande fortune dans le monde anglo-saxon, il a été chanté par beaucoup de chanteurs. En fait, elle a été traduite en anglais et chantée par beaucoup de chanteurs anglophones. Et très largement dû au fait que ce sont les Anglais puis les Américains qui ont fait la fortune de Sorrente.
Eh bien, on verra si les auditeurs ont envie de retourner ou tout simplement d'aller à Sorrente avec tout d'abord la version A. Torna Surriento, la première version, version A. Marie, alors, fais-moi vivre. As-tu le courage de ne pas revenir? Est-ce qu'on peut céder à ces paroles ou pas?
C'est difficile, effectivement, de ne pas céder à cet appel angeleur. C'est vrai que c'est ce qui est bouleversant dans ce type de pièce, c'est, en tout cas, c'est ce qui est très loin de notre culture française, c'est cette sincérité dans l'excès absolu. C'est vrai que moi je suis toujours très touchée par, au bout de la troisième mesure, il y a déjà des sanglots dans la voix, c'est complètement excessif, on se roule dedans, et pourtant on n'a pas l'impression qu'il y en a de trop. Je trouve ça très, très émouvant, parce que voilà, la sincérité dans l'excès, c'est formidable. La voix est magnifique, elle est ronde, elle est sombre, et pourtant quelle clarté dans les voyelles. Alors c'est très beau cette langue napolitaine, de laquelle j'admets ne pas être familière. C'est très amusant quand on a chanté, surtout pour ma part, de l'italien. Quand je vois effectivement le texte qui défile sous mes yeux, je vois bien que cette langue est un petit peu différente. Je crois que c'est une langue qui est très importante. Enfin, en tout cas, elle a un ancrage local qui a beaucoup de sens, et qui me touche particulièrement parce que j'ai l'impression que la personne semble quand même très familière avec cette langue. J'ai pas l'impression que ce soit un chanteur espagnol, j'ai l'impression que, c'est un chanteur italien. Peut-être je me trompe. En tout cas, j'ai trouvé ça très beau. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans cette version, c'est le côté crooner qui va un petit peu avec. Alors, il n'a pas peur de chanter presque bouche fermée, comme ça, de faire des... Et puis tout d'un coup, d'ouvrir sur un aigu absolument hallucinant. J'aime bien cette variété des nuances qui va vraiment du microscopique à l'excessif, à la limite de, on se dit, les cordes vocales vont dire, c'est pas possible de faire ça. Et pourtant, bon, c'est tout en maîtrise. Et puis ce rubato hallucinant, enfin, ça aussi, c'est quelque chose, en tant que française, pour moi, il y a un mystère, là. Il y a quelque chose de... C'est animal et c'est très sanguin, et on sent que c'est un savoir-faire qui appartient au Sud et que je trouve absolument enjôleur.
Ouais, j'entends le mot « crooner ». Est-ce que Sylvain, tu penses que finalement les crooners ne viendraient-ils pas, à défaut des États-Unis, plutôt d'Italie ?
Mais oui, en fait, c'est ce qu'on se dit quand on entend ça. On se dit que le chant napolitain, en tout cas celui-là, est l'école du crooning.
Complètement.
Et en fait, c'est vrai que tous les effets de dynamique vocale qui sont une espèce de balancement. Et en fait, quand on écoute bien, on se dit qu'il n'y a pas de raison là qu'ils chantent vraiment plus fort et là vraiment plus doucement. Il n'y a aucune raison textuelle et musicale qu'il alterne comme ça. On sent même que ce n'est pas forcément inscrit, etc. Mais en revanche, c'est un style. Voilà. Et en fait, c'est un style où, en effet, il a une espèce d'alternance de susurrements et d'exclamations. Et donc, c'est en effet, c'est ça le crooning. Enfin, c'est cette espèce de façon comme ça de bercer en fait, l'auditeur en multipliant les dynamiques, en les alternant, etc. Et ce qui est intéressant pour revenir sur le sujet du napolitain, c'est qu'en effet, la chanson est en napolitain. Il y a plusieurs degrés de napolitain. Je ne vais pas faire trop long parce que moi-même, je ne suis pas d'une compétence extraordinaire. Mais en fait, le napolitain, c'est un dialecte. Donc c'est un dialecte latin, donc qui ressemble beaucoup à l'italien, même qui est tout à fait parent et frère de l'italien. Et ensuite, il y a des degrés, c'est-à-dire qu'on peut parler un napolitain total, et là, franchement, on n'y comprend absolument pas grand-chose, rien, quasiment, on attrape des mots. Il y a de l'italien matiné de napolitain, et là, c'est intéressant parce que c'est en fait, et c'est le texte de cette chanson, c'est de l'italien matiné de napolitain, c'est-à-dire que c'est globalement l'italien avec des mots de napolitain qui sont en fait des dégradations, soit vocales, soit sur les consonnes, etc. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et probablement entendra-t-on dans d'autres versions, c'est qu'il y a une singularité vraiment du napolitain, qui est sa prononciation, qui est que c'est une langue qui chuinte. C'est-à-dire que les S sont transformés en CHE, ça c'est vraiment ce qui fait beaucoup rire les Italiens du Nord, et les consonnes un peu explosives, comme le B ou le P, deviennent très liquides. Et par exemple, vous voyez, baciare devient vassar, le B devient V. Tout est vélarisé, comme on dit. Et donc c'est une langue beaucoup plus liquide, beaucoup moins dentale que l'italien, qui l'est déjà... Pas beaucoup, mais enfin, donc c'est une langue qui coule d'elle-même en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette interprétation, ça se tient juste à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il chante le texte, mais il ne le napolitanise pas trop. C'est très intelligible, c'est très méditerranéen, mais il n'en rajoute pas dans le folklore linguistique, disons. Ça fait pas ultra couleur locale non plus. Enfin, c'est très beau et c'est une très belle langue, mais il n'a pas cherché, ce chanteur, et je pense que d'autres le font, à en rajouter dans le côté, vous voyez, j'y mets vraiment l'accent, etc., etc.
On gardera une oreille attentive sur ce sujet. Je vous propose tout de suite de comparer avec une deuxième version, la version B, que voici.
Mar quanto è bella, spira tanto sentimento, come tu al chi tiene mente, cascetato fai sognare. Guarda qua chi sto giardino, siente si esti sur arancio, e nu profuma così fine. D'indogore se ne va, e tu dici parto a Dio, allontano da stu cuore, dalla terra dell'amore, pieno cuore non tornare.
souriente, che tesoro d'un funne che agirà da tutto mondo, nulla vista come accà. Guarda torna ste serene, cada guarda incantata, e te vonne tanto bene, te volessere basare. E tu dici parto a Dio, t'allungare da sto cuore, dalla terra dell'amore, pieno cuore non torna. E tu dici parto a Dio, t'allungare da sto cuore, dalla terra dell'amore, pieno cuore non torna. Non dormas tu dormiente,
version B de Torna a Soriente, dans une orchestration évidemment différente du pianiste qui précédait cette écoute. Sylvain ?
Oui, c'est un peu une lecture et une relecture à la fois. On a l'impression que le chanteur là, et c'est son accompagnement, enfin, chante cette chanson, et puis en même temps réfléchit sur cette chanson, ou enfin, en fait, il brode sur cette chanson comme si le climat initial donné par des courtistes n'était pas complètement suffisant, qu'il fallait vraiment faire des variations, qu'il fallait faire des interludes, qu'il fallait interpoler. Et donc, évidemment, c'est singulier. Ensuite, c'est vrai que c'est chanté vraiment du bout des lèvres, d'une manière vraiment très économe. Là, on a entendu le fameux accent napolitain est beaucoup plus accentué. Là, on sent les C deviennent G, les P deviennent B. Enfin, tout est un peu mouillé, si j'ose dire, les consonnes. Et donc, c'est admirablement chanté, au sens où voilà, c'est vraiment fait avec une incroyable facilité. Il n'y a pas du tout les effets de crooning qu'on entendait dans la première version. Et ensuite, il y a cette orchestration derrière, et puis cette tentative de réécriture qui relève d'un certain goût. Voilà.
Marie, convaincue ?
Elle a quelque chose de lumineux. On ne peut pas nier que la proposition est intéressante, et de toute façon, je pense qu'une démarche artistique, quelle qu'elle soit, est intéressante et à prendre en compte, quelle qu'elle soit. Mais c'est vrai qu'on est, en comparaison avec la première version, loin de la viscéralité qui m'avait conquise au premier abord. On est effectivement dans quelque chose qui me semble plus intellectuel comme démarche, et du coup peut-être plus éloigné de ce qui est souhaitable, en tout cas dans la chanson napolitaine, qui, je crois, de ma courte expérience, en tout cas beaucoup plus viscérale, c'est le mot, je crois. C'est la sensation que j'ai eue. Après, effectivement, ça a beaucoup de charme. Le violon, la harpe, je ne sais pas si c'est de la mandoline, mais en tout cas, voilà, on voit que c'est charmant, enfin, c'est très frais. Oui, c'est une relecture, je crois, une interprétation.
Non, mais je pense que c'est très juste. C'est vraiment, la première version est très viscérale, très vécue, quoi.
Voilà.
Et là, on est dans quelque chose qui se regarde un peu chanter.
Un petit peu.
Voilà.
Bien chanté, par ailleurs.
Mais... Il se regarde bien chanté.
Voilà. Et la voix est, je pense, aussi claire et aussi lumineuse, parce que c'est vrai que cet accompagnement est lui-même un peu éthéré, finalement. Donc ça n'aide pas, ça ne donne pas envie de mettre du sombre et de l'épais.
Ouais, c'est une relecture un peu plus rêveuse, mais
voilà, rêveuse.
Il faut admettre quand même... C'est assez rare d'avoir une proposition qui ne se termine pas par un contre... Enfin, contre...
C'est un si bémol, hein, donc on n'est quand même pas très loin.
Fortissimo, qui appelle aux applaudissements. C'est une forme de courage.
Tout à fait.
Oui, bon, il est là quand même, ce si bémol.
Évidemment. La version C, est-ce qu'elle sera tout aussi nostalgique ? On termine évidemment de manière évidemment plus brillante. Marie, plus convaincue par cette version ?
Alors c'est encore autre chose, hein. C'est intéressant. Hein. C'est fou comme une seule œuvre peut donner des interprétations fort différentes. On est sur une version dont l'orchestration propose une version extrêmement vaillante. Tout est un petit peu démesuré. La lenteur de l'introduction, tout d'un coup, tout le temps se dissout dans nos oreilles. C'est extraordinaire. Le chanteur, la voix est divine. J'aime beaucoup. C'est plus sombre et c'est vrai que j'ai un faible, hein, je ne le cache pas. Mais c'est tout à fait personnel. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul couplet. Alors ça, je trouve ça un peu dommage, mais peut-être que s'il n'y a qu'un seul couplet, c'est aussi parce que justement c'est très 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 vaillant et que ça coûte quand même, hein, au chanteur. Parce que là, chaque note, je trouve, devient une performance en soi. Et donc on n'est plus pour moi sur le propos de l'œuvre, on est sur le propos de la démonstration. Donc ça a aussi un charme et je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Personnellement, c'est pas ce que je préfère dans l'interprétation musicale. Mais enfin, je comprends très bien que le côté Jeux Olympiques du chant lyrique est un charme.
Je crois que la beauté du timbre, tu n'es pas la seule à la partager, Sylvain.
Ben non, c'est la voix parfaite pour chanter ça. Enfin, c'est évidemment... tout est parfait. C'est dommage que ce soit accompagné par Hermann Scherchen et son, et son orchestre. Parce qu'en fait, on a le sentiment que c'est une version tape à l'œil. Avec un instrument vocal simplement exceptionnel, unique, on aurait peut-être pu faire quelque chose d'un peu plus contrôlé. Et là, on est dans la démonstration d'effet de force et dans la démonstration tout court, au fond, vocale, musicale, avec une débauche de mandoline survoltée. Il y a un petit côté touristique, un petit côté Disneyland du chant là, dans cette version. C'est un peu dommage. Parce que le matériau, évidemment, est exceptionnel.
Je vous propose, avec ces trois premières versions, qu'on puisse, on peut déjà en dévoiler une. Je vous propose qu'on dévoile celle peut-être qui nous a le moins convaincu. Je vous ai vu quand même moins emballé par l'orchestration, la proposition de la version B.
Oui, oui.
Oui, je vous influence, pardon.
Ça nous enlève la responsabilité de ce choix très difficile.
En plus, je dis ça... dès les premiers mots de cette version B, j'ai vu vos sourires. Enfin non, j'ai pas vu vos sourires puisque nous sommes tous masqués dans ce studio, mais j'ai vu vos yeux qui pétillaient.
Voilà.
On a tous reconnu cette voix qu'on aime tant.
Ça c'est sûr.
Évidemment, la version B c'était la version de Roberto Alagna avec le London Orchestra et chez Deutsche Grammophon, l'arrangement, l'orchestration, il faut le souligner, c'est celle d'Yvan Cassar. Mmh. Donc c'est vraiment un artiste qu'on connaît, qui est sans frontières et qui propose toujours des choses audacieuses, osées. Mmh. Alors là, voilà, dans une table d'écoute comparative, on est peut-être moins sensible à cette version, peut-être que dans un concert, vraiment avec un projet scénique, un projet global, ça appartient à quelque chose, peut-être ça sonnerait différemment. Mais voilà. Et entre la version A et la version C, est-ce que vous auriez envie de continuer avec une des deux ?
Moi, c'est vrai que j'ai été vraiment, vraiment ému par la première version. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit une version avec piano qui m'enchante autant.
Non, tout à fait. La A, c'est...
On n'est pas frustré d'une seule seconde d'avoir
non,
un
non,
piano.
Non, c'est vraiment extraordinaire.
Non, c'est parfait.
Alors, la version C, moi, personnellement, c'est un des ténors qui me touche le plus.
Et tu n'es tous, pas le seul.
Évidemment, c'est Giuseppe Di Stefano. L'ancien, puisque je sais qu'il y a un Giuseppe Di Stefano qui fait carrière en ce moment.
Ah, c'est pas vrai. Ouais,
c'est son homonyme exact, qui est ténor aussi.
C'est malin.
C'est terrible, brillant. Parce que lorsqu'on essaye de chercher des choses sur lui, on tombe sur son illustre aîné.
Ça alors.
Et alors bon, cette version, c'était la version du New Symphony Orchestra of London. Donc effectivement, comme tu disais, Sylvain, encore un orchestre londonien. Mm-hmm. Les Britanniques, décidément, aiment cette musique, dirigée par Hilaire Patacchini, qui... évidemment, et moins anglais. C'était chez Decca en 1965. Alors, je vous propose de continuer de suite avec la version D, qui, pour continuer voilà, dans cette débauche de vitamine D, vitamine C, de soleil, d'huile, d'olive, je ne sais pas. Version D.
Oh!
La version D, Torna Sorrento. Bon, Sylvain, qu'est-ce qu'on fait là? On enchaîne les tubes, on enchaîne les grands chanteurs.
Oui, oui. Alors, moi, on a, je crois, à peu près reconnu le chanteur, sauf erreur majeure. Ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est vraiment, il chante ça, mais vraiment comme de l'opéra, quoi. C'est-à-dire que c'est opératique, mais au-delà même de ce qu'on ferait à l'opéra, il pourrait interpoler ça avec un air de Puccini. Dans tout ce cas, enfin, je veux dire, il y a quelque chose là de très opératique. Du coup, il y a quelque chose de très lourd, de très grave, pas de lourd vocalement évidemment, mais de lourd dans l'ambiance, de gravité dans l'interprétation, de très sérieux au fond. Et ce sérieux-là, moi, je trouve que ça marche pas du tout en fait. C'est-à-dire que je trouve que ça manque précisément le but de cette chanson. Qui est une chanson, en fond, qui est d'être à la fois plaisant, sentimental, de varier les humeurs. C'est très descriptif, le texte, on n'en a pas parlé, mais voilà, ça décrit les jardins de Sorrente, etc., etc. Il y a quelque chose, au fond, dans cette chanson qui est triste, mais il y a aussi quelque chose qui est plaisant. Il y a aussi une nostalgie, et cette nostalgie, elle ne peut pas, à mon avis, se confondre avec une forme de tragique ou une forme de détresse absolument excessive. Et du coup, c'est un peu triste parce que je trouve que, au fond, par rapport notamment à la version A, où il y avait cet art de la variation qui pouvait paraître incroyablement excessif et qui, en fait, collait à la chanson de façon idéale, là, c'est le contraire. Il y a quelque chose de très hiératique et de très un peu granitique dans l'approche. Et finalement, on est juste amené à jouir de cette voix extraordinaire et toute la lumière et toute la beauté sont dans le timbre, beaucoup plus que dans l'interprétation. Alors ensuite, le timbre, il est extraordinaire. Évidemment, dès que ce chanteur ouvre la bouche pour chanter en italien, on se dit qu'on y est, quoi. Mais je trouve qu'il capitalise un petit peu trop là-dessus et pas assez sur l'art d'interpréter, ce qui est quand même une chanson qui s'interprète, qui doit s'interpréter. Et du coup, on est quelque part un peu aux antipodes de ce que faisait Roberto Alagna, qui lui surinterprétait ou faisait de la relecture ou remettait tout ça en perspective dans une autre ambiance, par une espèce de volonté, un peu de transposition d'atmosphère, ce qui était en effet une proposition intéressante, même si un petit peu décalée dans l'exercice d'aujourd'hui. Là, c'est le contraire. C'est vraiment la version, je dirais, alpha, quoi. C'est, voilà, on part de là, et puis après, on va voir si on peut en faire quelque chose sur le plan interprétatif. Mais on va déjà partir de là. Toutes les notes y sont. Le timbre est sublime. Le texte est admirablement prononcé, sans aucune concession, pour le coup, à la couleur locale. Il est vraiment fait à l'italienne du Nord. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis un peu frustré par cette approche.
Marie, tu partages ces, ces doutes, ces questionnements, pardon.
Oui, absolument. Cela dit, ce que j'ai aimé dans cette version, je trouve l'orchestration très intelligente. C'est-à-dire que, alors effectivement, elle est au service de cette version dont on vient de parler, un peu erratique, ça je ne peux pas le nier. Mais je trouve qu'elle permet, malgré la masse orchestrale, qui est quand même considérable et qui souvent, nous, chanteurs, ne nous permet pas vraiment de liberté, et spécifiquement dans ces répertoires pucciniens, qui demandent, en fait, du point de vue du rubato, et du point de vue des couleurs, une variété immense et extrêmement rapide, là je trouve qu'on y est quand même. C'est-à-dire que l'orchestre sert le drame, mais en même temps lui laisse la place à chaque fois qu'il en a vraiment besoin. Il lui permet la grande variété de nuances et de tempi qu'on avait dans la première version, qui moi en tout cas me séduit dans ce répertoire quand je sens que le chanteur flotte par-dessus la masse orchestrale. Moi ça me prend aux tripes, et quand ensuite, quand il finit le couplet et que derrière l'orchestre répond mais toute sa puissance, ça me prend un petit peu aux tripes, et ça m'émeut un peu comme avait ému la première version. Et en lui donnant en plus cette espèce de dimension, tout d'un coup, les cuivres, ça fait toujours quelque chose, enfin, moi en tout cas. Donc je trouve cette version intéressante par cet aspect précis.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, sur l'entrée des refrains à chaque fois, c'est très subtil. Les bois qui rentrent, justement, pour lui laisser vraiment ce filet de voix nécessaire à ce crescendo, et jamais sans générer. C'est un gros orchestre,
Exactement. Mais
c'est quand même orchestré très finement.
Et voilà, et ça c'est quand même une vraie performance, parce que c'est pas toujours, en fait. La chanson est souvent très difficilement orchestrée. C'est délicat de trouver des orchestrateurs qui ont l'intelligence d'être au service de la chanson. Tout de suite, ça prend vite une dimension mais trop généreuse, comme on l'a vu dans une version précédente.
Est-ce que la version nous emmènera dans ces perspectives? On revient à Naples, à Sorrente, pour la version E.
Oh!
la version E qui, je crois, nous éloigne légèrement au nord de Naples.
Et oui, c'est un vent frais qui vient de balayer le studio. Et donc, on a découvert avec... Enfin, moi, c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette version. Alors, dans le côté crooner, je sais qu'il y a des versions de... Dans cette chanson, j'ai vu qu'il y avait des versions de Sinatra. Donc, j'avoue que je m'attends. J'avais très envie de l'entendre parce que je ne la connais pas. Mais non, pas du tout. À la place, visiblement, nous partons donc en Suède. Et j'ai trouvé très intéressant, évidemment. Moi, j'aime beaucoup le fait que les chansons soient traduites. J'ai des tas de partitions à la maison de grands opéras en français, en fait. Donc, toute la Traviata en français. Enfin, c'est, bon, voilà, avec les prosodies qui piquent et tout ça. Mais voilà, j'ai gardé une nostalgie toute particulière pour cette période où, effectivement, on traduisait tout. Et ça a un charme et ça, je trouve aussi, ça offre la proximité qui est souhaité dans ce répertoire, en fait. L'idée, c'est aussi que le texte vous parle directement. Et pour les Suédois, j'imagine que le napolitain n'est pas forcément d'une proximité immédiate. Donc, pourquoi pas. Après, c'est vrai que voilà, il y a une jolie tentative de couleur locale avec les violons qui imitent la mandoline. Bon, voilà. Je suis pas complètement emballée, mais par contre, la voix est belle. Et why not? After all.
Quelques mots sur sa diction, sa prononciation du suédois.
Eh bien, figurez-vous que je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai moi-même enregistré déjà en suédois, donc je n'aurais pas la prétention de lui donner des cours. Mais enfin, non, je, même si je connais vaguement cette langue, je la chante un peu, je ne pourrais pas dire si c'est admirable ou non. Mais j'imagine que vu sa natalité, ça l'est.
C'était un expert, effectivement, je pense que Sylvain l'a reconnu.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est, je trouve dans cet enregistrement, c'est le côté incroyablement vieillot. Et en fait, c'est superbe. C'est-à-dire que moi, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est le côté, on s'est assez mal capté, on ne joue pas vraiment ensemble, ça grince un peu. Mais aussi même dans le style, en fait, de cette espèce de chant très sur le fil, très hyper suave, comme le faisaient enfin les ténors des années 30, quoi. Enfin, quelque chose de... c'est même des ténors, pas seulement italiens, enfin justement, des ténors allemands ou autrichiens ou autres, avaient cette espèce de goût de la suavité extrême. Et c'est ça qu'on trouve là. Et je dois dire que c'est assez amusant parce que, en fait, ça colle assez bien. Et on se dit, mais au fond, c'est vrai qu'on a été très séduit par la première version qui est très... très contrasté, très viril aussi dans ce côté, très affirmé, etc. Là, on est tout à fait dans l'effacement et dans quelque chose qui assume d'être une ritournelle, au fond, quelque chose qui se chante assez facilement, quelque chose qu'on aurait pu entendre dans la pièce d'à côté, enfin, quelque chose d'assez simple. Et ça marche très bien aussi, en fait. Il suffit, en fait, de ne pas prendre ça non plus tellement au sérieux et d'essayer de trouver, et c'est ce que disait Marie tout à l'heure, encore une fois, on y revient, au fond, c'est suave, mais c'est aussi assez viscéral.
Tout de même.
Voilà, il y a quelque chose dans cette simplicité qui vient quand même du fond, quoi. Enfin, quelque chose qui n'est pas affecté.
Est-ce qu'on n'est pas finalement assez proche de ce que c'est que la chanson ? Enfin, je ne suis pas une experte de la chanson napolitaine, mais il me semble que normalement, c'est une chanson plus ou moins a cappella, plus ou moins chantée dans la rue. Et finalement, on s'en éloigne avec cette espèce de performance vocale qui devient un truc, le la, puis après le si bémol. Et
d'ailleurs, là, il ne le donne pas, en plus.
Oui.
Donc, en fait, ça montre bien qu'il y a une approche non opératique, il y a vraiment une approche voilà, de chanson, enfin de mélodie tout simplement, mais de mélodie populaire, et que ça se chante comme ça, et que ça se chante avec pas un fil de voix, parce que c'est quand même une voix gigantesque, mais une voix gigantesque qui sait faire ça, et qui peut faire ça, et donc ça, il y a une vraie proximité, et je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que ça montre que ça a l'air, on dit les chansons napolitaines, c'est toujours un peu, il y a du cliché, il y a beaucoup de kitsch aussi là-dedans, et en fait ça se prête à beaucoup de regards, et beaucoup de styles, il y a de la ressource là-dedans, quoi.
Étonnamment, je trouve que en faisant la... Voilà, en comparant toutes ces versions, en cherchant, en triant, j'ai été étonné de voir que cette version était, évidemment, tout en n'étant pas chantée en napolitain, elle est assez authentique. Ouais. Elle appartient au patrimoine de tout le monde, il nous appartient à tous, et c'est inconscient, et on connaît cette chanson avant de l'entendre, on la connaît après, on n'est pas obligé de savoir que c'est une supplication pour retourner à Sorrente, pour être touché, ému. Et bon, je vous propose qu'on dévoile, hein, c'était un peu le chocolat non identifié dans la boîte du jour. Évidemment, vous avez reconnu donc la voix de Jussi Björling avec le Nils Grevelius Orchestra, dirigé par Nils Grevelius, pour RCA en 1931.
Ah ben voilà.
On était exactement dans les dates que tu citais, Sylvain. Et bah, pour terminer, hein, cette version, la version F, je pense qu'on va quand même retourner en Italie, en tout cas au napolitain, pour la dernière version de Torna a Sorrento.
Bello, spira tanto sentimento, come tu che tieni a me te, lasciato fai sul na. Guarda qua questo giardino, sente su si sur arance, che profuma così fino. Odin to cora se ne va, e tu dici o parto addio, tal lontana da stu cora, da terra dell'amore, tieni o cora non torna. Guardano incantate e te vanno tanto bene.
Un aigu brillant, magnifique pour terminer cette version F de Torna a Sorrento. Est-ce qu'on est dans une version plutôt opératique ou plutôt simple, Sylvain ?
En fait, moi je me dis, si j'avais été Ernesto De Curtis écrivant cette chanson, et que je sais pas, imaginons, j'aurais eu la chance d'entendre toutes ces interprétations, je me serais dit, tiens, ben, en fait, j'ai vraiment bien fait de l'écrire cette chanson pour qu'elle soit chantée par ce type-là. En fait. Parce qu'il y a chez lui une espèce d'infusion ténor, une espèce d'infusion naturelle avec tout. C'est-à-dire que le phrasé, le propos, le mot, l'accent. Et en fait, ce qui est vraiment d'incroyable chez ce chanteur, c'est à la fois, il met quand il faut le sanglot et le coup de glotte, mais tout est dans une espèce de direction vocale absolument, mais tellement impeccable et tellement parfaite, et avec la continuité du souffle et du timbre dans un dosage, mais d'une subtilité incroyable. Tout est tellement... Marie disait, parler de maîtrise. Là, c'est aussi de la maîtrise, mais c'est au-delà de la maîtrise, quoi. C'est une espèce de... Au fond, c'est une espèce de génie du chant. Et enfin, voilà, moi, c'est ça que ça m'inspire.
Marie, tu partages en tant que soprano aussi?
C'est sûr que physiquement, ça fait du bien. Il y a quelque chose d'une homogénéité, effectivement, d'une conduite. Enfin, il fait la première note, on entend la dernière déjà. Et ça, on nous le dit toujours, nous, quand on, jeune chanteur, quand on commence un morceau, on nous dit toujours, tout le morceau prépare la dernière note. Donc, dès la première, vous devez déjà être sur la dernière. Mais c'est très conceptuel quand on a des morceaux de 6 minutes, 8 minutes. Et ben, là, on est sur la réalisation absolue de ce genre de pensée. Alors, je suis très amusée par l'orchestration que je trouve audacieuse avec on entend des variations harmoniques on est à deux doigts de Ennio Morricone et j'ai trouvé ça très amusant mais ça dessert pas spécialement la chose, mais de toute façon c'est vrai que voilà, le chanteur est là et le propos est tellement prenant que il pourrait bien se passer, il pourrait presque être a cappella, je crois que ce serait grandiose aussi, enfin, donc c'est grandiose, oui.
Ouais, de toute façon c'était un peu le principe du cheveu en quatre aujourd'hui, hein, c'est vraiment il n'y a pas un seul chanteur de seconde zone.
Non.
Je vous ai senti assez convaincu par la dernière version. Vous avez aussi aimé la version A. Si vous deviez choisir, c'est cette question stupide, hein, mais c'est le principe du cheveu en quatre.
Hein. Quel enfer.
Si vous deviez choisir une version.
C'est-à-dire la A était il y a longtemps. On a tellement voyagé entre que moi, c'est vrai que j'ai du mal à trancher parce que...
Et on réécoute la version... Non.
Je sais pas, Sylvain, je...
Non, pour moi, la dernière version est la plus... Il y a une évidence. La première, il y a moins d'évidence. Enfin, c'est quelque chose qui est au sens où c'est quelque chose qui... Mais en fait, c'est quelque chose quand même qui nous capte avec toute cette dynamique parfois un peu étonnante. Enfin, c'est une version qui étonne, la première, mais qui en même temps séduit vraiment. Donc, c'est deux versions extraordinairement réussies et très différentes dans l'approche. Donc c'est très difficile de choisir.
Oui, c'est compliqué. Mais c'est vrai que la première, peut-être, est un tout petit peu plus... elle se perd un tout petit peu plus dans des détails qui font qu'on pourrait, si vraiment il fallait décider, préférer la seconde.
Eh bien, nous allons d'abord dévoiler la version D.
Oh.
Bon, bah, la version D, on savait tous qui c'était. Hein. C'est souvent le cas d'ailleurs avec ce chanteur, avec Luciano Pavarotti, cette sensation d'entendre la version référence, la version de base.
Mmh. Voilà. Oui.
Avec encore un orchestre britannique, The National Philharmonic Orchestra, dirigé. Ouais, c'était. Alors là, c'était vraiment le bravo Sylvain, dirigé par Giancarlo Carmello, chez Decca en 79, vraiment au moment où sa voix est peut-être. À son sommet, et encore Pavarotti, c'est une carrière tellement longue. La version A, c'est un chanteur qui est mort jeune, qui a fait beaucoup de cinéma, évidemment, Mario Lanza. Mario Lanza qui a inspiré tellement de chanteurs. Enfin, à chaque interview de ténor, je lis toujours dans les idoles d'Alania, de tous ces gens, il y a toujours Mario Lanza.
Mais de quoi, hein, c'est vraiment grandiose. Hein.
Ouais, vraiment.
On est passé aussi à côté d'une grande carrière d'opéra, de chanteur, puisqu'il a tourné beaucoup de films. Je sais qu'il y a encore à l'heure actuelle des associations, des clubs en Belgique, en France, de fans de Mario Lanza.
Ah oui,
qui savent ce qu'a sorti d'un de mes concerts de piano solo, c'est-à-dire absolument rien d'opératique. Un monsieur très gentil est venu m'offrir des CD de Mario Lanza.
Non.
C'est comme ça que j'ai découvert ce chanteur, que j'ai adoré.
Formidable.
Mais il y a vraiment encore un lobby Mario Lanza, on les salue d'ailleurs. C'est un enregistrement donc qui est était accompagné au piano par le chef d'orchestre Konstantin Kalinikos, un New-Yorkais d'origine grecque. C'est un enregistrement pour RCA, qu'on retrouve d'ailleurs sur la BNF en archive, et qui date de 1957. Et la version F, j'ai vu la couverture de l'album, il y a une magnifique voiture dessus, parce que c'était la chose qui nous manquait finalement, et elle est sur la couverture. C'est la version de Franco Corelli, évidemment. On a reconnu à son timbre, à ce petit cheveu sur la langue, si adorable. C'est publié chez Warner et ça a été enregistré en 1962. Alors accompagné par l'orchestre le plus italien possible puisqu'il s'agit de le Franco Ferrari Orchestra. Je crois qu'on peut pas faire, voilà, on peut pas faire plus italien, et évidemment dirigé par Franco Ferrari. Voilà. Et donc c'est avec Franco Ferrari accompagnant Corelli que nous clôturons cette émission. J'espère que ça vous a apporté un petit peu de soleil au moment où les jours raccourcissent et l'automne noir et obscur approche à grands pas. Je vous souhaite un très bon mois et je vous donne rendez-vous dans un mois pour la prochaine émission du Cheveu en 4. Merci à vous.
Merci.